Bonjour et bienvenue, 14h TU, 15h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, la Russie continue de frapper en Ukraine. Au moins 3 morts et 10 blessés ce dimanche à Kiev, à la veille des négociations prévues en Arabie Saoudite sous l'égide des États-Unis. L'armée israélienne a l'offensive dans le sud de la bande de Gaza. La reprise de ces opérations coïncide avec de nouvelles frappes au Liban contre le Hezbollah. En Turquie, incarcération pour corruption du maire d'Istanbul, qui est aussi le principal opposant au président Erdogan. Le pape François, de retour au Vatican après plus de 5 semaines passées à l'hôpital pour une double pneumonie. Le sud du Liban est le théâtre de la pire flambée de violence depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre dernier. Hier, des tirs de roquettes vers l'État hébreu ont provoqué une riposte meurtrière de l'armée israélienne. Et ce dimanche, l'agence de presse libanaise rapporte une attaque de drones. Reprise des opérations militaires aussi dans le sud de la bande de Gaza. Au moins 19 morts tôt ce matin dans des frappes israéliennes, avec parmi les victimes un haut responsable politique du Hamas. La population gazaouie semble fortement éprouvée. Amira Souilem a pu s'entretenir avec un habitant de Gaza. Écoutez.
Benjamin Netanyahou avait promis l'enfer si tous les otages israéliens n'étaient pas libérés. Les frappes de ces dernières heures semblent y ressembler. C'est en tout cas le sentiment d'Iya, d'ancien employé d'un hôpital gazaoui. Lui était à Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, quand une frappe a eu lieu hier.
Au moment de l'attaque, je buvais une tasse de thé posée devant moi sur la table quand j'ai ressenti un soulèvement massif et inédit, un peu comme si un tremblement de terre avait eu lieu. Nous avons été choqués d'apprendre que la frappe avait été menée dans le centre de Khan Younes, au sud de Gaza. La distance entre l'épicentre de la frappe et l'endroit où je me trouvais était d'à peu près 13 kilomètres.
Cette intensification des frappes, annoncée et assumée par Israël, vise à faire pression sur le Hamas officiellement. Pour Iyad, les objectifs ne sont pas que militaires.
La nature des bombes qui sont larguées sur nous sont d'une nature complètement différente de ce qui se faisait jusqu'ici. Le but est de détruire de grandes aires résidentielles et de faire le plus de victimes possible. Ces explosions sont complètement différentes des précédentes et cela nous pousse à penser que ce sont de nouveaux types de bombes qui sont désormais utilisées.
Ce matin, l'armée israélienne a ordonné l'évacuation d'un quartier de Rafah dans le sud de l'enclave, poussant des colonnes de Gazaouis à reprendre la route à la recherche d'un hypothétique nouveau refuge. Amira Suilem, Ramallah, RFI.
En Turquie, je le disais en titre, un juge a ordonné ce dimanche l'incarcération pour corruption d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul qui est aussi le principal rival du président Erdogan. Sa comparution au tribunal a mobilisé hier soir encore de très nombreux manifestants et la décision du juge a toutes les chances d'attiser cette colère populaire. Faut-il y voir un signe d'apaisement dans les tensions entre Alger et Paris? Le président Abdelmajid Tebboune a en tout cas fait un pas en déclarant, je le cite, « Mon unique point de repère, c'est le président Macron ». Déclaration faite dans une interview accordée hier soir à la télévision nationale algérienne. Sans jamais citer le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau, le président Tebboune estime que le contentieux entre les deux pays a été créé de toutes pièces. Il tient aussi à préciser qu'en cas de tension diplomatique, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui doivent régler les problèmes. Cette main tendue a été accueillie favorablement par la porte-parole du gouvernement français Sophie Prima. Selon elle, chacun est dans son rôle dans ce dossier et il n'y a pas de divergence au sein de l'exécutif français.
Le gouvernement est extrêmement déterminé. Il n'y a pas d'écart de vue entre le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et l'ensemble du gouvernement. Chacun est dans son rôle. La volonté de Bruno Retailleau, c'est la sécurité des Français et donc lui, il a des impératifs sur le territoire. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères sous l'autorité du Premier ministre et du président de la République, responsable de toute la politique internationale. Il a une mission de diplomatie qui sont des missions qui sont de garder langue et d'être à la fois déterminé, mais de garder langue. Vous ne pouvez pas trouver de solution avec l'Algérie si vous ne parlez pas à l'Algérie. Il faut donc sortir de cette affaire par le dialogue. Moi, j'ai entendu que le président Tebboune avait fait un petit signe vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est très bien. Voilà une façon de renouer le dialogue et d'échanger sur les sujets qui sont les sujets sensibles entre les deux présidents. C'est un bon signal.
Sophie Prima, la porte-parole du gouvernement français, ce matin chez nos confrères d'Europe 1 et de CNews. La Russie fait savoir qu'elle aborde dans un état d'esprit combatif et constructif les négociations prévues demain en Arabie Saoudite sous l'égide des États-Unis. Ces négociations ont été précédées d'une attaque russe meurtrière ce matin à Kiev. Au moins 3 personnes tuées, 10 autres blessées dans cette attaque de drone dans la capitale ukrainienne. Le président Zelensky appelle ses alliés à faire pression sur Moscou pour mettre fin à la guerre. De son côté, la Russie, par la voix du porte-parole du Kremlin, s'attend à des négociations difficiles. Le pape François, maintenant de retour au Vatican après plus de 5 semaines passées à l'hôpital pour une double pneumonie. Le souverain pontife, âgé, je vous rappelle, de 88 ans, reçoit toujours de l'oxygène par les narines. On l'a vu revenir ce matin assis sur le siège passager d'une Fiat 500 blanche. Aux États-Unis, Columbia cède à la pression de Donald Trump. La prestigieuse université a accepté de se plier à une série d'exigences de l'administration républicaine. Le prix à payer pour enfin toucher des centaines de millions de dollars de subventions actuellement gelées. Le chef de la Maison-Blanche a fait de Columbia une cible. Et d'autres universités craignent à présent de devoir céder à cette forme de chantage. Lubna Anaki.
Donald Trump aura finalement eu gain de cause. Il lui aura suffi de couper 400 millions de dollars à Columbia pour que l'université capitule et dise oui aux réformes exigées par l'administration. Oui à la création d'une force de sécurité interne, 35 agents spéciaux chargés de faire régner l'ordre sur le campus. Oui à une réforme des règles de manifestations étudiantes avec notamment l'interdiction du port du masque. Oui à l'adoption d'une définition précise de l'antisémitisme. Et oui à la nomination d'un surveillant à la tête du département d'études sur le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique que le gouvernement souhaitait placer sous tutelle académique. Des concessions dénoncées par une partie des professeurs et certaines organisations de défense des libertés académiques qui voient là un dangereux précédent car d'autres universités pourraient devoir elles aussi plier de peur de se voir menacées de coupes budgétaires. Une situation qui offre à Donald Trump un pouvoir jugé dangereux par beaucoup sur le monde académique. Lubna Anaki, New York, RFI.
Les sports football, les Bleus au pied du mur après leur cuisante défaite 2-0 en Croatie jeudi en Ligue des Nations. Ils sont condamnés à l'exploit ce soir au match retour au Stade de France. France-Croatie à suivre en fil rouge sur notre antenne. Au programme aussi dans cette Ligue des Nations, les matchs Espagne-Pays-Bas, Portugal-Danemark et Allemagne-Italie. Toutes ces rencontres à partir de 19h45, temps universel. En Formule 1, coup double pour l'écurie McLaren. L'Australien Oscar Piastri remporte le Grand Prix de Chine disputé à Shanghai devant son coéquipier, le leader au championnat, le Britannique Lando Norris. Cherche jeune couple voulant se marier pour faire face à la crise démographique qui la menace. La Chine tente de stopper la chute historique du nombre de mariages, car normalement, qui dit mariage dit enfant. Les autorités chinoises ont dévoilé ce week-end leur projet pour simplifier et rendre moins cher le mariage. Explication Heike Schmidt.
Des dots faramineuses, des cérémonies de mariage glamour et donc coûteuses, ce sont des traditions néfastes, a tranché le ministère des Affaires civiles qui promet de lutter contre. Mais comment convaincre la famille de la mariée de renoncer à la dot qui se chiffre souvent en dizaines de milliers d'euros et qui au passage déplume le futur marié? Les autorités n'ont dévoilé aucune formule magique. L'autre piste pour augmenter le nombre de mariages, les couples pourront désormais se faire enregistrer là où ils le souhaitent. Si le ministère annonce ces nouvelles initiatives, c'est que les mesures prises jusqu'à maintenant n'ont donné aucun résultat tangible. Des subventions aux mariés, des aides pour jeunes parents ou encore la promesse d'ouvrir plus de jardins d'enfants. Rien ne semble pouvoir convaincre les jeunes Chinois, souvent en situation précaire, de convoler et surtout de faire des enfants. En 2024, la Chine a enregistré un déclin de sa population pour la troisième année de suite.
C'était Heike Schmidt. En France, contre la maladie, l'opération SIDAction se poursuit jusqu'à ce soir. Les dons sont possibles par téléphone, SMS ou bien Internet. Ils servent à financer la recherche, les soins, ainsi que les programmes d'aide aux personnes vivant avec le VIH en France comme à l'étranger. L'édition 2024 a réuni 3,87 millions d'euros de promesses de dons comme l'année précédente. Avant de conclure cette information en provenance de Turquie, le ministre de l'Intérieur annonce que le maire d'opposition d'Istanbul, qui doit être incarcéré ce dimanche pour corruption, a été démis de ses fonctions. Prochain journal, 16h avec Charlotte Hydrac dans l'immédiat. L'émission Bonne Pulsation du Monde. Très bonne journée sur RFI.